Bienvenue sur Follow the Bible Ministries. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques versets de la Bible, confiant qu'ils affermiront votre foi en Dieu et en sa sainte parole. Et maintenant, passons à notre étude.
Bonjour et bienvenue à notre cours biblique. Ceci est la huitième partie de notre cours du livre de Marc. Et nous apprenons les débuts du ministère terrestre de Jésus qui a duré 3 ans et demi. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois lorsque Jésus enseigna dans une synagogue de Capernaum. Capernaum était situé dans le nord d'Israël, près de la mer de Galilée. Cette région fut nommée Galilée en raison de la proximité de la mer. Constituant notre lecture de ce qui s'est passé lorsque Jésus enseigna dans la synagogue de Capernaum. Lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 1, à partir du verset 23. Or, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, et il s'écria : Laissez-nous tranquilles. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus les réprimandant en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur les déchira et poussa un grand cri, puis il sortit de lui. Tout firent ceci d'étonnement, au point de se demander entre eux, « Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette nouvelle doctrine ? Car ils commandent avec autorité même aux esprits impurs, et ils obéissent. » Aussitôt, sa renommée se répandit dans toute la région de Galilée. Nous avons lu qu'un qui avait un esprit impur, pour reprendre les termes de ses récits. Cet esprit impur était un esprit mauvais, un démon. Les démons sont dirigés par Satan, leur chef. Ce passage décrit donc une personne qui avait les démons. Nous avons lu comme Jésus a chassé les démons. Nous lisons à plusieurs reprises dans l'Évangile, dans les récits du ministère du Seigneur Jésus, comme Jésus a chassé les démons. De ce fait, certaines personnes cherchent à chasser les démons elles-mêmes. Elles vont donc chercher les démons et tenter de les expulser d'une manière ou d'une autre. On lutte contre les diables. Par conséquent, leur attention se concentre sur le diable, ce qui peut finalement entraîner la glorification du diable lui-même. N'oublions pas que les entiers, c'est notre relation avec Dieu. Plus précisément, sommes-nous sauvés? Le Seigneur Jésus est-il notre sauveur? Si Jésus est notre sauveur, nous avons la sécurité éternelle en Dieu. Et ni le diable, ni personne d'autre ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous retrouvons cette vérité dans plusieurs parties de la Bible. Par exemple, nous lisons dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 à partir du verset 38. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les impripotes, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous promet qu'une fois sauvés, rien, pas même le diable, ne pourra nous séparer de son amour. L'essentiel, c'est le salut, notre relation avec Dieu. On trouve de nombreux passages qui soulignent la nécessité du salut. Par exemple, dans l'Épître aux Romains au chapitre 2, à partir du verset 6, il rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui parlent la persévérance dans le bien, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, la vie éternelle. Mais à ceux qui sont querelleurs et qui n'obéissent pas à la vérité, mais à l'injustice, à l'indignation et à la colère, la tribulation et l'angoisse s'abattent sur toute âme d'homme. Qui fait le mal du juif, premièrement, puis du non-juif. Ici, Dieu déclare qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. En effet, nos œuvres témoignent de notre caractère. Si Dieu nous a sauvés, il demeure en nous, nous guide vers le bain. Mais si nous ne sommes pas sauvés, nos désirs pécheurs se manifesteront par une rébellion contre Dieu. Dans ce passage, Dieu dit qu'il nous rendra selon nos actions. Si nous sommes sauvés, nous accomplirons de bonnes œuvres à ses yeux. Et l'Épître aux Romains chapitre 2 nous dit que nous recevrons la gloire et l'honneur. Mais si nous restons non sauvés, nous subirons la colère de Dieu, notamment la souffrance consciente de la tribulation et de l'angoisse. Ainsi, le salut est essentiel. Il nous délivre des souffrances, de l'enfer, et nous apporte les merveilles bénédictions du ciel. On retrouve cet enseignement dans l'évangile de Luc, chapitre 16. Là, Dieu utilise des hommes comme illustration. Un homme riche représente ceux qui restent non sauvés. Un autre homme pauvre, nommé Lazare, représente les sauvés. Nous lisons à partir du verset 19. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, qui menait chaque jour une vie de luxe. Or, il avait un mendiant nommé Lazare, couvert d'ulcère, couché à sa porte. Il désire se nourrir des miettes qui tombent de la table du riche. Même le chien venait lécher ses plaies. Or, le mendiant mourit et fut emporté par les anges dans les seins d'Abraham. L'homme riche mourit aussi et fut enterré. Et dans ses séjours de mort, il leva les yeux en proie à de terribles tourmentes et aperçut Abraham au loin et Lazare dans son sein. Alors, il cria « Père Abraham, aie pitié de moi !» et envoyez Lazare tremper les bouts de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens durant ta vie, et Lazare les mal. Mais maintenant, il est consolé, et toi tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un grand abîme. Ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas. Et ceux qui voudraient venir d'ici ne le peuvent pas non plus vers nous. » Dans cette illustration, l'homme riche possède de nombreux biens terrestres, mais il finit par mourir. Son expérience suivante fit les tourments ou les souffrances conscientes. Mais cet homme pauvre ne possède pas grand-chose en ce monde. Il essayait de se nourrir des miettes tombées de la table des riches. Il mourit lui aussi. Mais il entra au ciel, comblé de grâces divines. Ce passage souligne une fois encore l'importance du salut. Il nous délivre des tourments de l'enfer et nous permet de recevoir les plus grandes bénédictions de Dieu au ciel. Ainsi, l'essentiel réside dans notre relation avec Dieu. Et lorsque Dieu nous sauve, nous trouvons la sécurité éternelle, Christ. Ceci nous amène à nous poser une question. Pourquoi la Bible relate-t-elle ces événements où Jésus chasse les démons si nous ne devons pas craindre les diables? Je crois que Dieu insiste sur le fait qu'avant le salut, nous sommes sous la domination du diable dans ce monde et soumis à son autorité. Dieu parle de notre soumission à l'autorité du diable dans plusieurs passages. On lit dans les livres des Actes, chapitre 26, que le diable a autorité sur le non-croyant. Ici, Dieu parle par l'intermédiaire de l'apôtre Paul et rapporte un message qu'il a reçu de Dieu, lui donnant pour instruction d'être témoin de l'Évangile. Nous lisons à partir du verset 16. « Mais lève-toi et tiens-toi debout, car c'est pour cela que je te suis apparu, pour faire de toi un ministère et un témoin de ces choses que tu as vues et de celles que je te révélerai encore. » « Je te délivrerai du peuple des païens vers lesquels que je t'envoie maintenant, pour leur ouvrir les yeux, pour les faire passer des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu, afin qu'il reçoive le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Ici, Dieu dit à l'apôtre Paul, par l'intermédiaire des messages, qu'il apportera les messages de l'Évangile afin que les gens soient sauvés. Nous lisons que l'un des résultats du salut est que nous sommes délivrés du pouvoir de Satan et conduits à Dieu. Le mot « pouvoir » est généralement employé au sens d'autorité. Nous trouvons un enseignement similaire dans l'Épître aux Colossiens. Nous lisons au chapitre 1, verset 13, au juste du Seigneur Jésus. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous fait passer dans les royaumes de son Fils bien-aimé. Par le salut, nous sommes délivrés du pouvoir ou de l'autorité des ténèbres diables. Ainsi, lorsque Dieu nous sauve, il nous délivre de l'autorité du diable. Et je crois que c'est ce que Jésus enseigne en chassant les démons des gens. Il ne s'agit pas de dire que le démon habite en nous. Dieu utilise plutôt de nombreuses images pour enseigner la vérité de l'Évangile. Et le fait qu'un démon soit chassé de quelqu'un symbolise que cette personne a été libérée de l'autorité et de la domination du diable. Et c'est une grande bénédiction du salut, être délivré de l'autorité et de la domination du diable. Il est important de se rappeler que lorsque Dieu nous sauve, nous sommes entièrement protégés du diable. Il ne peut plus nous nuire, quoi qu'il en soit. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, que les véritables croyants trouvent la sécurité en Dieu. À partir du verset 27, le Seigneur Jésus dit « Mes brebis attendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Nous lisons également dans les livres des psaumes que le vrai croyant bénéficiait d'une sécurité éternelle. Nous lisons au psaume 103, verset 17. Mais la miséricorde de l'Éternel dure à toujours, si c'est que le craignent, et sa justice s'attend jusqu'aux enfants de leurs enfants. La miséricorde de Dieu est éternelle lorsque nous sommes sauvés. Nous lisons une déclaration similaire concernant les bénédictions et la sécurité éternelle du vrai croyant dans le livre de Jérémie. Nous lisons au chapitre 31, verset 3. L'Éternel me apparit de loin, disant, « Oui, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi j'étais attiré avec bonté. » Voici quelques versets qui évoquent la merveilleuse bénédiction et la sécurité que les véritables croyants trouvent en Jésus-Christ. La Bible nous met en garde contre les diables. Nous lisons dans le premier épître de Pierre au chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Nous devons nous prémunir contre les diables, tout comme nous devons nous prémunir contre les tentations que les autres nous présentent. De même, nous devons nous prémunir contre les tentations de notre corps nous impose. Ainsi, les véritables croyants doivent toujours être vigilants. Dieu nous enseigne comment combattre le diable dans l'épître de Jacques au chapitre 4, verset 7. Nous lisons. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dieu nous exhorte à résister au diable. Nous le faisons en suivant la Bible, les instructions que Dieu nous donne, et en nous détournant des tentations que d'autres nous présentent. Cela inclut aussi de nous détourner des tentations qui proviennent de notre propre esprit. Dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, Dieu nous donne d'autres instructions pour résister à la tentation au diable. Nous lisons à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister au mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toute prière et toute supplication. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dieu nous révèle comment affronter les diables et toutes les tentations. Plus précisément, Dieu nous dit de revêtir l'armure complète de Dieu. Dieu illustre les cheminements du véritable croyant dans ce monde à travers la figure d'un soldat d'autrefois. À cette époque, les soldats portaient des armures, des boucliers et des épées. Ces équipements leur offrent à la fois une protection défensive et une capacité offensive. Dieu utilise cette image pour décrire comment les véritables croyants sont protégés du diable et de tentations. La figure des armes offensives souligne que les véritables croyants doivent être un guerrier pour Dieu dans ce monde, publier la Bible pour les sauvages des autres. Nous ne devons pas lutter contre les gouvernements, ni contre les hommes et leurs péchés. Au contraire, nous devons apporter l'évangile de paix pour que les hommes puissent se réconcilier avec Dieu. Toutes les figures que Dieu utilise dans ces passages d'Éphésiens se rapportent à la Bible. Par exemple, nous utilisons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La Bible est représentée comme une épée. Dieu parle de la cuirasse de la justice. Nous sommes protégés par la justice de Dieu. Nous lisons aussi que nos reins sont ceints de vérité. La vérité de Dieu est notre protection. Sous cette image, nous portons le casque du salut. Toutes ces images renvoient à la Bible, la parole de Dieu, comme source de vérité et de protection. Lorsque Jésus fut confronté par le diable, il répondit en citant la Bible, l'Ancien Testament, texte disponible à cette époque. Le diable essaya de tenter le Seigneur Jésus des péchés. Mais Jésus nous indique la solution pour vaincre les diables et toute intention, en particulier de retourner à la Bible. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 4, à partir du verset 6. Le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces puissances, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi derrière moi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Citation de Jésus tirée de la Bible. En apprenant davantage sur la Bible, nous sommes mieux préparés à affronter les diables et la tentation. Une autre raison pour laquelle il est inutile de s'inquiéter de savoir si quelqu'un est possédé par le diable est que généralement nous ne pouvons pas savoir si le diable possède quelqu'un. L'un des 12 apôtres s'appelle Judas. C'est lui qui a trahi le Seigneur Jésus. La Bible indique que Judas était possédé par le diable lorsque Judas a partagé la scène avec les 12 apôtres avant sa crucifixion. Et les 11 autres apôtres ignorent même que Judas a été possédé par le diable Satan. Même lorsque Satan, le chef des diables, était intrigué en Judas, les 11 autres apôtres n'étaient pas connaissants, Nous apprenons cette vérité dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Lisons à partir du verset 1 de Jean, chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer ce monde au Père, aimant les saints qui étaient dans le monde, il les aimait jusqu'à la fin. Les repas étaient finis. Le diable a maintenant inspiré dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'idée de le trahir. Nous constatons à ce stade que le diable pousse Judas à trahir le Seigneur Jésus. Ceci est dû au fait que Judas n'était pas encore sauvé, qu'il était toujours sous l'emprise du diable. Passons ensuite au verset 21 des chapitres. Nous lisons à partir du verset 21. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé en esprit, et déclarant en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me trahira. Les disciples regarderont les uns les autres, doutant de qui parle Jésus. Simon, Pierre, lui fit donc signe de demander de qui il parle. Alors s'étant couché sur la poitrine de Jésus, lui demandant, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondit, « C'est celui à qui j'ai donnerai les morceaux après l'avoir trempé. » Et ayant trempé les morceaux, il donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Après les morceaux, Satan entrant en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Or, aucun de ceux qui étaient à la table comprenait pourquoi Jésus lui disait cela. Car certains pensaient, parce que Judas tenait la bourse que Jésus lui avait dit, « Achetez ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il avait donné quelque chose aux pauvres. Aussitôt après avoir reçu les sopes, il sortit et il faisait nuit. Le mot « sope » est un ancien mot anglais désignant un morceau de pain. Jésus prenant son dernier repas avec ses 12 apôtres, avant de partir souffrir sur la croix pour les péchés des croyants. Nous lisons qu'après que Jésus eut donné les sopes aux morceaux de pain, Satan entrant en Judas. Judas sortit pour trahir le Seigneur Jésus, et les autres apôtres ignorent pourquoi. Ainsi, lorsque Judas fut possédé par le diable, les autres apôtres ne s'en perçurent même pas. Normalement, il est impossible de savoir si quelqu'un est possédé par le diable. Ou bien, une personne peut souffrir d'un problème médical ou mental qui explique son comportement étrange. Ainsi, il est inutile de se demander si quelqu'un est possédé par le diable. En attendant le salut, nous avons tous besoin du Christ comme sauveur, que nous soyons possédés par le diable ou non. Nous avons toujours besoin d'un sauveur. Par conséquent, il est toujours utile de prier pour les autres, afin que Dieu les sauve. Durant les 3 ans et demi du ministère du Seigneur Jésus, nous lisons plusieurs écritures de Jésus chassant les démons. Et nous pouvons nous demander pourquoi c'était un problème à l'époque de Jésus, mais pas de nos jours. Peut-être la réponse est telle que les diables et ses anges déchirent même leur principal combat contre le Seigneur Jésus car il est Dieu. Et peut-être était-il plus actif durant les 3 ans et demi du ministère de Jésus sur terre. Comme nous les lisons dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous ne trouvons que peu d'exemples des personnes possédées par le diable. Ceci étant dit, examinons quelques vérités plus précises que nous pouvons tirer dans ces passages de Marc chapitre 1. Lisons à partir du verset 23. Or, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, et il s'écria, « Laissez-nous tranquilles, qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Jésus de Nazareth, es-tu venu nous perdre? Je te connais, toi qui es le Saint de Dieu. Cet esprit impur ou mauvais parle à travers cet homme. Cet esprit mauvais parle au Seigneur Jésus et l'appelle les saints de Dieu. Jésus est le saint de Dieu, car il est Dieu, et Dieu est saint. Certains pensent que le diable s'enfuira lorsqu'on prononce le nom du Seigneur Jésus, ou encore les démons ne parleront pas à Jésus. Mais nous constatons que ces affirmations sont fausses. Le diable n'a pas peur de converser avec le Seigneur Jésus. L'important est de lire la Bible et de prier pour la compréhension et l'obéissance. Ainsi, nous sommes protégés contre les diables et ses associés. Ce diable dit à Jésus, « Laissez-nous tranquilles. » Les diables veulent que Dieu les laisse tranquilles afin de poursuivre leurs actes pécheurs. Mais Dieu ne les fera pas. Dieu le Seigneur Jésus va chasser ces diables, ce qui est une image, la manière dont Dieu nous sauve et nous délivre de l'autorité et de la domination du diable. On remarque une autre chose intéressante qu'il dit, « Qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Quel rapport Dieu a-t-il au diable? Nous voyons que Dieu règne sur le démon, car il chasse ce démon de l'homme. Le Seigneur Jésus est Dieu, et Dieu est le juge de toute la terre. Nous lisons cette vérité dans plusieurs versets. Par exemple, dans les psaumes 82, verset 8. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. De plus, dans le psaume 96, verset 13, « Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. » La Bible est claire. Dieu est le maître et le juge de toute la terre, y compris des hommes et des anges. Nous lisons dans les livres de l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 10,
nous vous remercions de nous avoir écoutés. Le temps imparti à notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Nous continuerons cette étude la prochaine fois.
Nous vous remercions de votre écoute. Retrouvez-nous pour notre prochaine émission. Notre adresse est la suivante. Follow the Bible Ministries, P.O. Box 813, Weimar, CA 95736. USA. Notre site web est followthebibleministries.com. Écrivez-nous par courriel à followthebibleministries@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.